pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des réactions déjà, des questions simples ou...
Déjà, ouais. Si, ouais, juste un intérêt, c'est vrai, combien de temps vous êtes resté sur place en 2000
En tout, je suis restée un peu plus d'un an. Voilà. Mais en fait, je suis revenue aussi plusieurs fois. Et donc, le travail de terrain s'est aussi déroulé sur 3-4 ans. Voilà.
Quelle était la langue dans laquelle vous communiquiez? C'était de l'espagnol?
Espagnol.
C'était uniquement de l'espagnol?
Oui, uniquement de l'espagnol.
Est-ce que ces personnes, dans leur contexte familial d'origine, ne parlaient que l'espagnol ou parlaient d'autres langues?
Non, on parlait espagnol.
Non, mais elles entre elles, oui. Parlaient-elles uniquement espagnol ou parlaient-elles aussi des langues de type quechua ou autre?
Non, elles ne parlaient qu'espagnol.
Elles ne parlaient qu'espagnol.
Ce que je trouve intéressant, c'est de comment cette dimension-là, elle vient travailler. On parle du travail du care, en fait, et comment, en fait, il y a des exigences. Alors là, tu n'as peut-être pas tellement parlé, finalement, mais c'est filigrane dans ta présentation, mais il y a des exigences fortes de l'ordre de la dimension de l'amour aussi, qui doit être apportée, y compris aux enfants des domestiques. Alors, je ne sais pas si tu as travaillé un petit peu cette dimension-là, mais de comment. Comment se déploie en fait ce travail domestique dans sa composante affective aussi? C'est... Enfin, voilà. Je ne sais pas si tu as travaillé ça, mais c'est... Du coup, c'est peut-être ça qui vient questionner du coup, les rapports de parenté aussi. Quoi. C'est-à-dire ça vient bousculer peut-être certains liens de filiation, voilà, ou pas, enfin je ne sais pas.
Oui, après c'est vrai que... Donc il y a toutes ces théories, c'est des théories américaines donc sur le care, c'est-à-dire un travail sur des emplois qui sont majoritairement féminins et qui impliquent un investissement affectif de la part des personnes qui font ce travail. Alors, en fait, le travail du care, c'est pas forcément que l'emploi domestique, ça va être tous les emplois de service, les emplois d'infirmières, tous les emplois qui impliquent le fait de prendre soin de quelqu'un. Et c'est vrai que ces travaux montrent que cet investissement affectif, il est très important. Et il y a besoin d'une reconnaissance de cet investissement affectif. Il y a des travaux très intéressants américains qui montrent que, parce qu'en fait, il y a eu des approches de l'emploi domestique en termes d'exploitation, où on disait que c'est finalement, ça fait longtemps que la question de ces rapports un peu familiaux dans l'emploi domestique, elles sont interrogées par la littérature internationale. Et donc on se demande, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça cache la domination? Une exploitation encore plus grande, est-ce que en fait on dit mais tu es comme ma fille, donc, par exemple aux États-Unis, pour encore plus exploiter les gens, etc. Et en fait, ce que montrent par exemple des travaux de quelqu'un qui s'appelle Ondanieu Sotelo, c'est que dans ce type d'emploi où on doit de toute façon prendre soin, où ça fait partie du travail, c'est nécessaire d'avoir des échanges affectifs. Pour la santé mentale des individus, c'est extrêmement important d'avoir des échanges affectifs et c'est pas forcément la marque d'un masque de la domination, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a des employés aux États-Unis qui feront vraiment la différence entre une forme de paternalisme ou de maternalisme, ou par exemple les employés vont offrir des cadeaux, etc. Ou des rapports voilà qui seraient un petit peu infantilisants. Avec la reconnaissance d'une employée domestique comme personne, ou avec laquelle il y a des échanges affectifs et des échanges affectifs qui peuvent aussi être égalitaires. Et cette dimension de reconnaissance comme personne dans les échanges affectifs, elle est très importante pour le bon déroulé de ce travail. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des travaux en France qui montrent que le fait de plus du tout voir que les employeurs et les employés ne se voient plus du tout, ça peut produire une exploitation qui est encore plus forte, où on va demander Et en Colombie, on voit ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de vision manichéenne des choses, et celles qui travaillent, qui font des ménages à l'heure, on va leur demander une très grande productivité, et puis, curieusement, par exemple, elles auront beaucoup moins souvent le droit à une protection en termes de droit du travail, d'être affiliées au droit. Celles qui travaillent à la maison, elles ont beaucoup plus d'affiliation que celles qui travaillent à la journée où c'est plus précaire. Donc, en fait, ces échanges affectifs, ils sont aussi nécessaires. Après, ça dépend de comment ils se déroulent, etc. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie de la définition du travail, et c'est ce que montrent des chercheuses françaises qui travaillent sur la France, comme Pascale Molinier, qui est une des théoriciennes françaises du CERN.
Attendez, d'abord là, une question, puis là-bas. Ouais.
Justement, par rapport à cette dimension affective, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le travail effectif notamment de cette femme ou d'autres femmes, justement, dans le travail domestique, parce qu'il me semble que ça doit participer de cette relation affective. Est-ce qu'elle s'occupe seulement du ménage, de la cuisine, des enfants? Et il me semble que si ces personnes viennent à s'occuper des enfants, ça peut participer aussi de tisser des liens et de mettre en place d'autres relations que certaines personnes qui ne s'occuperaient, par exemple, que du ménage ou alors que de la cuisine. Enfin,
Alors, j'ai interrogé des personnes qui parfois ne s'étaient pas spécifiquement occupées d'enfants, et donc qui faisaient ménage, cuisine. Par contre, souvent ça va ensemble. Enfin, en tout cas, les personnes que j'ai interrogées, ça allait ensemble. Et des personnes qui faisaient parfois un petit peu tout. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai pas non plus travaillé sur des familles qui seraient extrêmement aisées et qui auraient plusieurs employés domestiques. À chaque fois, il n'y en avait qu'une en même temps. Et donc, en fait, c'était aussi des familles où les origines sociales, en tout cas dans l'histoire de la famille, c'est pas si éloigné. Et donc, en général, il y avait effectivement une pluralité de tâches effectuées en même temps. Mais par exemple, dans l'histoire dont je vous ai parlé au début, donc de cette personne qui chante la chanson, c'est vrai qu'elle ne s'est pas occupée des enfants. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une rupture avec la famille, même au bout de 30 ans de travail, qui a été plus facilement faite que quand il y a le lien aux enfants. Parce que le lien aux enfants qu'on garde, ça peut vraiment créer des liens sur le très long terme. Et je pense notamment à une... Donc c'est vrai que ça différencie. C'est vrai que ça différencie les choses. J'en ai pas énormément parlé dans l'ouvrage. Ça n'a pas forcément été un axe d'analyse particulier. Mais c'est vrai que quand je relis mon travail de terrain, c'est vrai que ça différencie les choses. Parce que je pense aussi à une employée domestique qui a eu des relations très équilibrées avec ses différents employeurs. Donc, au début, quand elle était jeune, elle résidait chez les employeurs, et donc elle a élevé les enfants pendant de nombreuses années, etc. Dans une famille plutôt riche, où effectivement elle s'occupait pratiquement exclusivement de l'éducation des enfants, et puis après elle a été simplement à la journée, plutôt pour ménage et cuisine. Mais par contre, les relations qu'elle a eues quand elle était assez jeune avec la famille ont perduré pendant 30 ans, et donc elle était invitée à manger, elle était invitée aux anniversaires, elle était prise en photo, etc. Mais c'était pas forcément la famille avec laquelle, par exemple, c'est pas cette famille-là qui a été marraine de ses enfants. Mais c'est marrant parce que justement elle m'avait montré une photo où on voyait qu'elle était comme un membre de la famille, parce que c'était une photo qu'elle gardait dans son portefeuille, où en fait on la voyait, elle était invitée pour l'anniversaire des enfants, et c'était la seule femme avec l'employeur, parce que la femme était décédée, et ses enfants. Donc ça faisait vraiment photo de famille. Et c'est vrai que ça crée des liens particuliers, mais il peut aussi y avoir des liens particuliers, même quand il y a un peu moins ces relations aux enfants. Et donc, par exemple, après, elle a été chez des employeurs où elle n'était pas, elle résidait pas chez ses employeurs, mais il y a aussi eu des liens forts avec ses enfants qui simplement passaient de temps en temps. Voilà, donc c'est vrai que ça participe vraiment de quand ça se passe bien avec les enfants. Entre les enfants d'employeur et une employée domestique, c'est vrai que ça participe à une histoire familiale commune, mais il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui se passent sans ça.
Est-ce qu'il y a d'autres colombiens dans la salle? Le seul colombien dans la salle? Donc, c'est utile de le dire parce qu'il faut peut-être aussi, comme vous l'avez fait, comme Daniel Laurent, introduire en disant d'où on parle, quoi. Et quelle est la, pour expliquer la nature du propos, quoi. Moi, je voudrais simplement vous remercier parce que vous avez commencé en disant que c'était un non-sujet, effectivement, pour un Colombien, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet absolu. Je viens d'une famille de classe moyenne de Bogota, on va dire classe moyenne haute, parce que j'ai fait des études de lycée français de Bogota. Et effectivement, les employés domestiques, les muchachos, j'aurais pu utiliser ce terme-là et rappeler aux gens de cette manière-là que c'est un terme générique qui veut dire simplement jeune dame, jeune femme, muchacha. Ça apporte peut-être encore plus dans le sens de l'invisibilité. Pourtant, tout en étant une manière de marquer, bien entendu, quelque chose qui n'est pas une profession, ou ne l'était pas encore il y a quelque temps, mais une position dans la famille. Et comme vous le dites, et le remerciement personnel, je veux lire votre livre, va dans le sens de dire. Ça permet effectivement de voir autrement, de voir, peut-être déjà, d'ouvrir les yeux, et de voir quelque chose oui, qui est de l'ordre du vécu, qui absorbe la vie de chaque individu à l'intérieur de cette famille de classe moyenne et de classe supérieure. Voilà, je vais lire avec beaucoup d'attention, je pense que je suis très attentif à la manière dont votre livre sera accueilli en Colombie, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup. J'ai des amis sociologues, peut-être, qui ont travaillé sur les études de genre, qui sont peut-être des personnes avec qui vous avez travaillé
sans doute.
À l'Université nationale.
Oui.
Oui. Bah, qui est décédé il y a 2 ans, peut-être, que vous connaissez. Gabriel.
Ah oui. Je ne savais pas si. Je ne savais pas.
Bon,
oui, j'ai travaillé avec
elle. Mais en dehors de gens comme elle, je ne pense pas qu'on ait posé la question, ou on est posé sur, on a comme sujet de recherche d'études, si souvent que ça, de cette manière-là, et autour de l'insertion dans l'univers familial, des personnes qui exercent ces fonctions de travail domestique. Voilà, c'est juste cette réaction que j'ai à voir.
Oui, par rapport à ça, oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai beaucoup utilisé le centre de documentation du centre de genre de l'Université nationale qui regorge de données. Et j'ai trouvé plein de choses, notamment effectivement les premières études qui avaient été menées sur ce sujet en Colombie dans les années 1980. Et donc j'ai fait un stage où Luz Gabriela Arango était ma tutrice de stage. Et j'ai travaillé aussi avec Pascal Molinier, qui est très en lien avec Mara Viveros, etc. Et là, justement, Pascal Molinier, elle a rédigé un compte-rendu pour la Boletina de Estudios de Género, donc, qui est la revue des études de genre de l'Université nationale. donc qui doit être en train d'être retravaillée pour être publiée, ou elle dit, et on verra si c'est écouté, mais que ce serait effectivement dommage qu'il ne puisse pas y avoir de réception colombienne de ce travail, et de traduction du travail, et une forme de publication. Donc j'ai bon espoir que la demande qu'on m'a formulée au début de mon travail de terrain puisse aboutir, même si je sais que c'est un travail long, etc. Et effectivement, le centre de genre, c'est là où tout se passe en Colombie sur ces questions de genre. Et c'est un lieu très important pour travailler ces sujets-là. Mais effectivement, il y a eu des recherches sur Cali, sur les employés domestiques afro-colombiennes, parce que les populations noires à Cali sont beaucoup plus importantes, donc c'est dans le sud du pays. Donc il y a eu une thèse qui a été rédigée par une chercheuse colombienne qui s'appelle Yeni Pozo Figueroa, plus sur les questions de conditions de recrutement, rapport à la migration, la place des agences de placement, donc plus dans une dimension économique et analyse du travail. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup d'autres travaux là-dessus. Il y a eu évidemment les travaux de Magdalena León. En fait, Magdalena León, c'est une chercheuse colombienne qui s'est engagée, qui est féministe, sociologue, qui s'est engagée sur ce travail au milieu des années 80, dans une perspective de recherche-action, justement pour sensibiliser les populations de Bogota aux conditions de travail des employés domestiques au niveau national, et faire appliquer une législation protectrice qui existait, mais qui n'était pas appliquée, en fait. Et donc elle a réussi, et ça c'est vrai que c'est une particularité de la Colombie, de faire des recherches-actions participatives qui sont en même temps intégrées à la vie politique du pays. Et donc elle a fait travailler des sociologues et des syndicalistes, des employés domestiques ensemble pour organiser des mobilisations. Donc il y a eu des manifestations importantes à Bogota. Et ça reste dans la mémoire des employés domestiques que j'ai interrogés, qui disent « Ah ben maintenant, on n'est plus des esclaves, on a des droits ». Et c'est vrai qu'il y a eu ces travaux-là de Magdalena León qui ont été extrêmement importants pour faire évoluer la législation, au moins le respect de la loi en Colombie sur ces questions-là. Après, il reste toujours beaucoup à faire, etc. Mais en tout cas, ça a fait évoluer les mentalités sur un certain nombre de sujets, même si les ménages à la journée, ça fait que les conditions d'emploi sont plus précaires et c'est moins bien payé, etc. Mais c'est vrai que sur la vie familiale, il y a eu assez peu de travaux. Voilà. Et en France, il y a pas non plus beaucoup de travail qui interroge la manière dont un travail, ça fait bouger aussi les relations familiales, alors que je pense que ça paraît évident pour toutes les femmes qui travaillent ici, qu'il y a quand même des choses que ça fait bouger, quoi. Même si là, ça se passe dans la famille, donc c'est encore un peu particulier comme contexte.
Enfin, il y a un contexte sud-américain aussi, j'ai envie de dire, qui est très étrange, peut-être pour nous, quoi, vu en tout cas, peut-être d'Europe, enfin. Et je voulais savoir, enfin, voilà, s'il y avait quand même des évolutions dans justement les mentalités. Bon, tu dis qu'effectivement il y a des mobilisations de féministes, etc. Mais globalement, comment ton sujet était accueilli, quoi, quand tu évoluais dans la société colombienne, quand tu y étais, enfin, je veux dire, justement, est-ce que c'était, comme vous dites, en fait, finalement réellement un non-sujet, ou est-ce que finalement... Parce que moi, j'ai eu une conversation avec un Brésilien, un Espagnol qui est parti vivre au Brésil, parce que sa femme est brésilienne, et sur ce sujet-là des employés domestiques, et ça a été compliqué, quoi, de se faire, de s'entendre, quoi, sur... moi, j'avais une certaine lecture par le prisme plus de la domination, mais qui semblait inentendable, en fait. En face. Alors, voilà.
La situation, moi, je dirais, par rapport à ces sujets-là, en fait, elle est très contrastée au niveau des différents pays latino-américains. Parce que si on lit les travaux qui se sont faits sur ces différents sujets, par exemple au Brésil, c'est un exemple extrêmement intéressant, C'est un pays où, avec Lula, à l'époque de Lula, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur la mobilisation des travailleuses domestiques. Il y a eu beaucoup de manifestations, elles ont revendiqué des droits et ça a eu un impact très important sur la vie du pays. Et aussi, ce que me disait une chercheuse italienne récemment, c'est que peut-être aussi que ça a perturbé une certaine classe moyenne brésilienne, que ça a un peu crispé et qui aurait fait arriver Bolsonaro, c'est-à-dire le fait que ces classes populaires laborieuses, comme les travailleuses domestiques, revendiquent des droits, qui a été quelque chose de très fort au Brésil. Les mouvements de syndicats de travailleuses domestiques ont été très forts au Brésil. Je connais un peu moins la situation dans d'autres pays latino-américains. Et en fait, en Colombie, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la guerre, enfin le climat politique très difficile, fait que ça masque un peu tout autre problème qu'il pourrait y avoir. Et alors, moi, j'ai travaillé sur la question des syndicats d'employés domestiques à Bogota. Donc, il y en avait un dans les années 80, sur lequel s'est appuyée Magdalena León pour justement développer des mobilisations, mais qui ont duré quand même quelques années, mais pas tant que ça. Et en fait, après, on a l'impression que la logique du... Alors, il y a eu à la fois, il y a eu des personnes syndiquées qui se sont brouillées entre elles. Mais finalement, que la logique du conflit, enfin, des difficultés politiques du pays, elle a repris le dessus et elle a fait complètement étouffer ces revendications qu'il y a pu y avoir à un moment. Et puis, il faut savoir que le syndicalisme en Colombie, c'est pas simple, hein. On n'est pas dans n'importe quel contexte. Il y a des assassinats de leaders syndicaux, je ne dirais pas quotidiennement, mais enfin c'est vraiment très fréquent et ça repart encore en ce moment. Donc se syndiquer, je pense qu'on y réfléchit à deux fois, encore plus quand on donne dans des populations très dominées comme les employés domestiques qui sont souvent des femmes seules, etc. Donc en fait, la situation, elle est vraiment différente en fonction des pays et qu'elle est cette situation où il y a assez peu, voire pas beaucoup de mobilisation sur l'emploi domestique, elle est liée aussi au contexte politique de la Colombie qui fait que même s'il y a plein d'autres problèmes que la violence politique, ça prend quand même le dessus de pas mal de discussions, de sujets. Voilà. Alors qu'il y a vraiment eu des gros mouvements qui ont pu exister, même au Brésil. Alors bon, qui ne se retrouvent pas dans le discours de ton ami, mais... quand même la situation est un peu différente par rapport à ça.
Le propos qui était tenu en face, c'était de dire bon ben ça permet à des classes populaires d'avoir un emploi. Ben, en l'occurrence, c'était un endroit. On n'était pas en ville, hein, c'était un contexte éloigné. Il y avait le village en fait des employés domestiques et un village plus ou moins un village historique d'employés domestiques et un néo-village type communauté. Au bord de la mer, etc., complètement nouvelle communauté, quoi. Et là, c'était, du coup, ça posait plein de questions. Mais réellement, tous ces gens-là, ils avaient quand même des employés domestiques, alors que c'était, on était dans un, enfin, c'est un contexte new age, hein, clairement. Quoi,
oui. Non, mais ça dépend pas de ça. Le recours à l'emploi domestique, bon, déjà, il faut voir qu'il n'y a pas de crèche. Il y a toute une infrastructure qui n'existe pas en Colombie, et donc on n'a pas forcément énormément de choix non plus. Hein, c'est pas forcément du luxe. Dès que les femmes travaillent, ça, c'est compliqué aussi. Et alors, il peut aussi y avoir, et je ne sais pas si c'était le cas de ton ami, mais il peut y avoir aussi des systèmes d'entraide familiale. Hein. C'est-à-dire que dans les classes moyennes de Bogota ou d'autres villes, il peut y avoir de la famille. Parce qu'en fait, Bogota, c'est une ville qui s'est construite, c'est une ville de migration, enfin, de migrants notamment des Andes environnantes. Et donc, souvent, les gens ont aussi de la famille dans les villages environnants qui vont aussi aider. Alors, ça peut rester ambigu, hein, parce que. Mais aussi pour la scolarisation des jeunes femmes, etc. Donc, en tout cas, ça a été ça pendant longtemps. Donc, il y a plein de situations très contrastées. Et je pense qu'on ne peut pas arriver avec notre regard européen et juger comme ça. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une interrogation que j'ai eue moi aussi. Hein, mais...
Dans ces contextes d'instabilité politique, de troubles sociaux et puis de problèmes avec les syndicats, la loi n'est pas appliquée.
Non. Non.
Donc
non.
Ça reste sur l'affectivité entre les deux familles. Quoi.
Vous voulez dire la loi pour faire respecter les droits des employés domestiques.
Les droits des employés et effectivement la façon dont ils sont traités.
Alors en fait, ce qu'il peut y avoir, c'est que... il y a effectivement, là j'ai plus les chiffres en tête, mais par exemple on dit que les personnes... Alors, il y a des... À l'époque où j'ai travaillé, ça a peut-être un peu évolué, mais il y avait un système de couverture sociale pour les personnes précaires, qui était un système de couverture sociale universelle qui a été appliqué il y a quelques années, qui est d'assez mauvaise qualité, donc c'est un peu une sous-couverture maladie. Et finalement, les employés domestiques étaient couverts par ça, comme tout le monde par défaut. Et peut-être que ça, finalement, ça a cassé tout le mouvement qu'il y avait eu pour l'affiliation des employés domestiques à la sécurité sociale. Alors là, il y a la sécurité sociale, mais par exemple, il n'y a pas la retraite. Si les personnes, elles sont sur ce système-là, il n'y a pas la retraite, il n'y a pas les vacances. Bon, voilà, il n'y a pas la liquidation, c'est-à-dire les droits à la fin du contrat, etc. Donc voilà, il y a eu plein d'évolutions. Il y a le fait que quand les personnes sont affectivement proches de leurs employés domestiques, suite à la sensibilisation qu'il y a pu y avoir dans les années 80, elles vont dire ben, « je t'affilie à la sécurité sociale et tu auras une retraite », etc. D'ailleurs, il y a une employée domestique que j'ai interviewée qui a pu bénéficier de sa retraite. Malheureusement, et c'est très triste à dire parce qu'en fait c'était vraiment une victoire, elle était tellement contente justement d'avoir entretenu des relations avec des employeurs qui lui ont payé sa retraite, qui n'étaient pas forcément ceux avec lesquels elle travaillait toujours et tout ça, mais elle avait droit à une retraite et 3 ans plus tard elle est tombée malade, elle n'était pas très vieille, mais donc elle n'a pas pu en bénéficier. Mais, et c'est vrai que finalement la précarisation qu'il peut y avoir avec les ménages, ça fait qu'il y a des relations moins fortes avec les employés domestiques et qu'on dit c'est un travail comme un précaire comme un autre, un travail de débrouille, et donc ils sont couverts comme n'importe quel travail de débrouille, c'est-à-dire pas très bien, mais c'est pas différent des autres. Après, le respect des lois par rapport au conflit, je saurais pas trop dire ce que ça a comme impact. Après, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, en ce moment, c'est pour tout le monde que c'est difficile en Colombie au niveau du droit du travail. Il n'y a quand même plus beaucoup de monde qui a le droit à une retraite, etc. Et c'est aussi le creuset des mobilisations qu'il peut y avoir actuellement, parce que c'est difficile pour beaucoup de monde, des classes populaires à moyenne aisée en ce moment en Colombie, d'avoir une sécurité sociale, etc. On ne doit pas payer soi-même en plus. Donc il y a en général un contexte social qui est difficile. Et qui est lié à plein d'aspects. Voilà. Je pense que le conflit armé, ça a un impact sur la mobilisation politique et syndicale. Parce que ça devient dur. C'est très dur. C'est des contextes qui sont socialement, enfin politiquement très, très durs. Quoi. Même si en France, ça se tend actuellement. Ça n'a quand même rien à voir. Voilà.
Ok, bon, je vois qu'il y a des bavards. Ah, peut-être une autre question, non? Bon, ben, en tout cas, je vous remercie d'être venu écouter cette séance très intéressante. Et puis, on se donne rendez-vous donc en 2020. Il y a l'ouvrage qui est là, vous pouvez en profiter pour vous faire dédicacer si vous voulez. Enfin, il est en vente. Et voilà. Merci beaucoup.
Merci.